Donc je vais vous parler des cellules souches, mais comme je fais un travail de recherche sur les cellules souches embryonnaires, qui sont une petite catégorie des cellules souches, je vous parlerai en particulier des cellules souches embryonnaires et de ce qu'on appelle aujourd'hui la reprogrammation. Vous verrez que ça abordera des sujets tels que les thérapies cellulaires, la médecine régénérative, je vous ai expliqué tous ces termes, et également des sujets tels que la recherche sur l'embryon et finalement, est-ce qu'on peut ou pas détruire un embryon, et donc des questions éthiques et qui, je l'espère, seront intéressantes à discuter après. Donc, ce que je vous propose, c'est que toutes les questions qui concernent le débat, vraiment, c'est sur, justement, les enjeux de la médecine régénératrice, sur les questions éthiques, qu'on les laisse pour la fin, après l'exposé. Par contre, si vous voulez poser des questions plus techniques sur un mot que vous n'avez pas compris, et ça peut vraiment arriver parce qu'il y a des mots que j'utilise tous les jours, mais qui, pour vous, ne vous parlent pas. Et donc, c'est normal de m'arrêter à ce moment-là et de me poser des questions sur le sens d'un mot. Mais j'essaierai, autant que possible, de vous expliquer ces mots au fur et à mesure que je les introduis dans l'exposé. Alors, avant de vous parler des cellules souches, je vais vous parler un petit peu des enjeux des cellules souches, c'est-à-dire pourquoi on s'intéresse en médecine aux cellules souches. C'est parce que c'est un nouveau domaine dans la médecine qui s'ouvre, c'est la médecine régénératrice. Alors pourquoi c'est un nouveau domaine? Parce qu'il y avait d'autres pans de la médecine qui fonctionnent très bien. La médecine, disons, des médicaments, on a fait d'énormes progrès avec les antibiotiques, par exemple, pour traiter les maladies infectieuses, avec des produits pour traiter contre l'hypertension artérielle, etc. Il y a aussi toute la médecine qui est finalement la chirurgie. Donc, on a fait d'énormes progrès en chirurgie. On sait aujourd'hui même transplanter des organes, changer un cœur qui ne fonctionne plus et le remplacer par un autre. On sait réparer une appendicite qui est enflammée, qui, il y a encore 100 ans, entraînait le décès d'un patient. Aujourd'hui, ça, on sait très efficacement le réparer. Et pourtant, malgré tous ces progrès, alors je vais essayer de parler un peu plus loin du micro. Malgré tous ces progrès, il y a encore plein de situations pathologiques aujourd'hui qui n'ont pas du tout de réponse, où ni les médicaments ni la chirurgie ne permettent d'avancer. Je reviendrai sur un exemple, mais qui est l'infarctus du myocarde. On sait très bien diminuer aujourd'hui l'incidence de l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire il y a moins d'infarctus qu'avant, parce qu'on sait prévenir l'infarctus du myocarde, on sait traiter l'hypertension artérielle, on sait conseiller d'arrêter le tabac, de manger plutôt riche en fibres et de faire de l'exercice, j'espère que vous faites tout ça, pour essayer de diminuer l'incidence de l'infarctus du myocarde. Mais une fois que l'infarctus du myocarde arrive, c'est-à-dire qu'une artère coronaire, une artère du cœur se bouche, vous avez un morceau du muscle cardiaque qui va être irrémédiablement détruit. Et aujourd'hui, on ne sait pas réparer. Un cœur qui a été endommagé, on ne sait pas le réparer. On sait prévenir, mais on ne sait pas guérir aujourd'hui d'un infarctus du myocarde. Si jamais vous en faites plusieurs d'affilée ou bien un très gros, ça met vraiment votre vie en danger. Et ben, la médecine régénératrice se propose, là où aujourd'hui les médicaments ne suffisent pas, la chirurgie ne peut pas résoudre ce problème, sauf à changer le cœur, mais ça c'est la transplantation cardiaque, c'est vraiment réservé à quelques patients, ce n'est pas du tout généralisable dans la population. Et ben, la médecine régénératrice se propose, par exemple, ce n'est pas encore tout à fait effectif aujourd'hui, de régénérer par exemple le cœur pour que là où il ne fonctionnait plus, il fonctionne. Donc, médecine régénérative, nouveau enjeu de la médecine. Alors, il faut bien voir un tissu comme un ensemble de cellules. Donc, vous connaissez la cellule, c'est le plus petit élément finalement du tissu vivant. Dans un tissu constitué ici schématiquement de petits carrés, vous avez des cellules souches. Et on reviendra sur la définition d'une cellule souche. C'est juste une cellule jeune, immature, capable de fabriquer toutes les cellules différenciées. Donc là, les cellules carrées sont les cellules différenciées. Donc, vous avez une cellule souche capable de régénérer le tissu qui est parmi tout ce tissu et qui permet l'entretien de ce tissu. Au fur et à mesure que le temps passe, vous avez des cellules qui constituent ce tissu. Donc là, par exemple, on peut imaginer que c'est le cœur. Donc, vous avez certaines fibres musculaires du cœur qui disparaissent. Eh bien, les cellules souches vont recréer ce tissu en fabriquant de nouvelles cellules. Mais au cours de certaines pathologies, ou bien tout simplement au cours du vieillissement, vous pouvez avoir ce phénomène de régénération du tissu, et ça c'est dans tous les tissus, hein, la peau, le cerveau, etc., qui ne fonctionne plus ou plus aussi bien, qui finit par s'épuiser, s'éroder, et vous avez de plus en plus de cellules qui manquent à l'appel, et donc le tissu vieillit et fonctionne de moins en moins bien. Le problème, lorsqu'on arrive à un stade très avancé, c'est comment est-ce qu'on pourrait régénérer l'organe. Et là, aujourd'hui, les médicaments, encore une fois, ne peuvent pas régénérer l'organe. Et la chirurgie, à part la transplantation d'organes, mais qui reste un geste extrêmement lourd, n'est pas une solution généralisable à beaucoup de pathologies qui sont concernées par cette disparition des cellules. Donc, comment régénérer l'organe? Donc, les médicaments, ce n'est pas vraiment une solution pour le moment envisageable, en tout cas d'une manière générale. La chirurgie, encore une fois, ce n'est pas généralisable. Eh bien, une nouvelle réponse, c'est la médecine régénératrice, ou encore appelée thérapie cellulaire. C'est-à-dire venir avec des cellules, et là, on parlera plutôt de cellules souches, c'est-à-dire des cellules très jeunes, capables de générer plein de cellules différenciées adultes, et de venir les réinjecter dans le tissu pour qu'elles régénèrent l'organe. Et à ce moment-là, on retrouve un organe tout à fait normal et jeune. C'est-à-dire que là, l'idée de la médecine régénératrice, c'est de venir remettre dans un tissu qui a été endommagé, où il y a des cellules qui ont disparu, des cellules jeunes et en bonne santé. Donc vous comprenez tout de suite, comme ça concerne un grand nombre de pathologies, je vous ai parlé d'infarctus myocarde, mais ça concerne également le diabète, où vous avez des cellules du pancréas qui ont disparu, ça concerne également des maladies du foie, où vous avez des cellules du foie qui disparaissent, ça concerne des maladies du cerveau. Donc il y a beaucoup de pathologies qui sont concernées par ces problèmes-là, et qui pourraient trouver dans la médecine régénératrice une réponse. Juste à titre anecdotique, mais chez certains animaux, vous avez cette capacité de régénération qui est conservée. Et par exemple, la salamandre, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion, si on coupe la patte d'une salamandre, je vous demande de vous pas livrer à cette expérience, mais il y a des chercheurs qui l'ont fait, cette expérience. Si vous coupez la patte d'une salamandre, eh bien, au bout de 40 jours environ, vous avez la patte qui a complètement régénéré, qui s'est reconstruite comme au départ, avec tous les doigts. Il est évident que chez l'être humain, on a perdu cette capacité de régénération. J'essaye d'avoir le pointeur. Non, ça marche pas. On a perdu cette capacité de régénération, mais c'est exactement ce qu'on aimerait par, disons, des procédés artificiels, in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, essayer de reconstituer, essayer d'aider finalement les organes humains à se régénérer comme la salamandre le fait spontanément. C'est ça l'enjeu de cette médecine régénératrice ou encore médecine régénérative. Et donc ça, c'était l'exemple que je vous ai cité avec une image, l'infarctus du myocarde. Encore une fois, si vous avez certaines de ces grandes coronaires, les grandes artères du cœur qui se sont bouchées, vous avez tout le tissu qui est irrigué par la coronaire qui meurt. Donc vous avez le muscle cardiaque qui meurt à cet endroit-là, là sous le rond noir. Et à ce moment-là, vous avez une partie du muscle qui ne fonctionne plus. Donc le cœur se contracte moins bien. Il est évident que si jamais ça arrive sur une surface trop grande ou bien s'il y en a à trop d'endroits différents, le cœur ne fonctionne plus suffisamment pour assurer la survie de l'individu. Et donc une fois que l'infarctus s'est établi, on ne peut pas aujourd'hui le guérir. En l'état actuel de la médecine, on ne peut pas aujourd'hui le guérir. Donc l'espoir de la médecine régénérative, c'est en injectant des cellules jeunes, des cellules souches, qu'on puisse régénérer ce cœur. Là, c'est un exemple des enjeux. Alors, on va définir un petit peu plus les cellules souches, même si je vous ai déjà donné quelques indices. La cellule souche a deux propriétés. Un, elle est capable d'auto-renouvellement, c'est-à-dire qu'elle est capable de se régénérer tout au long de la vie. On ne perd pas, quand dans un tissu, vous avez des cellules souches, on ne va pas les perdre au cours de la vie, parce que lorsque elles se différencient en cellules plus différenciées, est-ce que vous savez ce que c'est la différenciation ? C'est partir d'une cellule immature, jeune, qui n'est pas capable d'assurer la fonction d'un organe, à une cellule différenciée, c'est-à-dire une cellule qui est vraiment capable d'assurer la fonction d'un organe. Par exemple, la cellule du foie est capable de détoxifier votre sang et de fabriquer les protéines de votre sang. Eh bien, la cellule souche du foie n'est pas capable de faire ça. Elle est juste immature, elle n'est pas capable de faire la fonction. Par contre, une fois qu'elle s'est différenciée en cellule du foie, là, elle est capable de détoxifier le sang et de synthétiser des protéines. Donc les cellules différenciées sont celles qui assurent la fonction de l'organe, cellules musculaires dans le muscle, les neurones dans le cerveau, les cellules qui fabriquent de l'insuline dans le pancréas, etc. Les cellules souches sont des cellules très immatures. Et donc la cellule souche est capable à la fois de s'auto-renouveler pour maintenir le pool, la réserve de cellules souches tout au long de la vie, et à la fois capable de se différencier dans des cellules intermédiaires, adolescentes si on peut dire, précurseurs, progéniteurs, et puis au final arriver à des cellules différenciées. Alors, on distingue différentes cellules souches en fonction de leur capacité de différenciation. Typiquement, la cellule souche unipotente, alors là, il y a une petite liste de mots, de gros mots, les unipotents, multipotents, pluripotents, totipotents, je vais vous les expliquer, et vous retiendrez surtout le mot pluripotent, puisque ce sont les cellules souches embryonnaires dont je vous parlerai un peu plus. Les cellules unipotentes, elles n'ont qu'une capacité de se différencier en un seul type cellulaire différencié. c'est celles que j'ai encadrées ici, enfin celles qui sont ici. Donc par exemple, les spermatogonies sont des cellules souches dans les testicules qui fabriquent des spermatozoïdes. Vous avez les cellules satellites du muscle qui sont des cellules souches dans le muscle, qui font des fibres musculaires, mais ils ne font rien d'autre. Les cellules satellites ne font pas de neurones, ne font pas de cellules du pancréas, etc. Donc ce sont des cellules souches unipotentes. Donc la potence, c'est-à-dire la capacité à faire la puissance, à générer des tissus. Donc c'est très étroit. Les cellules multipotentes, vous voyez qu'il y a un pluriel qui est apparu, multi, donc ça fait plusieurs types cellulaires. Mais vous verrez, par pure définition, le spectre est moins large que pluripotente. C'est vraiment juste des choix de mots. Donc un exemple de cellules souches multipotentes, c'est les cellules souches hématopoïétiques, qui sont celles qui sont dans la moelle osseuse et qui fabriquent le sang. Le sang est composé de plein de cellules différentes, les globules rouges. Quoi d'autre ? Les globules blancs, les plaquettes. Et puis quand vous dites globules blancs, en fait, il y a plein de cellules différentes. Il y a les polynucléaires neutrophiles, il y a les lymphocytes. Quand on dit lymphocytes, en fait, vous avez les lymphocytes B, les lymphocytes T, les NK, etc. Donc une cellule souche hématopoïétique est capable de faire des dizaines de cellules différentes. Donc elle est bien multipotente. Il y a bien une cellule souche qui fait plusieurs types cellulaires différents. Les cellules souches pluripotentes, dont les cellules souches embryonnaires, elles ont une propriété très intéressante parce que non seulement elles font beaucoup de types cellulaires différents, mais en fait elles font tous les types cellulaires d'un être humain adulte. Elles sont capables à la fois de faire du neurone, comme de faire du foie, comme de faire de la peau, du muscle, etc., du rein, tous les types tissulaires d'un être humain adulte. Et donc c'est particulièrement intéressant parce qu'on peut imaginer qu'avec des cellules souches embryonnaires, ou bien les cellules reprogrammées dont je vous parlerai après, qu'on appelle aussi IPS, on pourra fabriquer des cellules qui pourraient être des cellules médicaments ou bien du Lego pour réparer n'importe quel organe endommagé. Aussi bien du cerveau pour réparer un Alzheimer que pour réparer un foie. Donc vous voyez que l'intérêt de ces cellules pluripotentes, ces cellules souches embryonnaires, est d'un point de vue en tout cas théorique bien supérieur aux autres parce qu'elles sont capables de tout générer. La cellule totipotente, c'est un peu particulier et on n'en parlera pas plus dans cet exposé, mais c'est la cellule qui est capable de donner un être humain complet. Une cellule donne un être humain. C'est par définition l'ovule juste après la fécondation. Lorsque l'ovule et le spermatozoïde se sont rencontrés, c'est un œuf fécondé et ça va donner par définition un être humain complet. Et en fait, cette propriété de totipotence est conservée pendant une ou deux divisions cellulaires. C'est-à-dire que l'embryon a deux cellules. Si jamais on sépare ces deux cellules, ça fait quand même faire deux êtres humains complets. C'est les jumeaux, les vrais jumeaux, jumeaux homozygotes. Il y a même eu des cas rapportés dans la littérature, c'est assez rare, c'est moins de 1 pour 1 million, de quadruplés homozygotes, c'est-à-dire qu'au stade 4 cellules, chaque cellule a fait un bébé, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont accouché de 4 jumeaux vrais, c'est assez rare, mais donc pendant une ou deux divisions cellulaires, les cellules sont totipotentes, c'est-à-dire qu'une cellule donne un bébé complet. Mais ça n'est observé que in vivo, c'est-à-dire que dans... après la fécondation dans l'utérus d'une femme, et jamais in vitro, c'est-à-dire que ou seulement dans la fécondation in vitro. C'est-à-dire que ce n'est pas une propriété qu'on est capable de maintenir. On n'a pas de lignée cellulaire où chaque cellule, parmi des milliers ou des centaines de milliers, serait capable de donner un bébé. C'est vraiment une propriété très éphémère, la totipotence. Donc nous, on parlera après essentiellement des cellules pluripotentes. Ça, c'est juste une diapo pour vous parler d'une application des cellules souches, je reviens derrière, multipotentes, parce que je vais vous parler des cellules souches embryonnaires, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore quelque chose qui est utilisé en médecine, en thérapeutique. On ne l'utilise pas aujourd'hui. On n'a pas encore injecté de cellules souches embryonnaires à un être humain. Par contre, on utilise des cellules souches multipotentes tous les jours, en particulier dans l'unité thérapie cellulaire où je travaille. On manipule des cellules souches hématopoïétiques, c'est-à-dire celles qui sont capables de fabriquer toutes les cellules du sang. On peut les prendre d'un individu, donc par exemple un donneur, un frère ou une sœur, compatible avec un receveur, et on est capable de les prendre du donneur et de les réinjecter à un receveur. On fait dans le cadre du traitement des leucémies aiguës ou de certains autres cancers du sang, lymphome, myélome, etc. Donc l'utilisation de cellules souches est une réalité aujourd'hui, mais uniquement dans des indications très particulières de traitement de certains cancers. Et c'est uniquement les cellules souches hématopoïétiques qu'on peut vraiment facilement aujourd'hui manipuler. Donc il y a déjà les applications en médecine avec des cellules souches, mais restent limitées en partie aux cellules souches hématopoïétiques. On travaille un petit peu aussi avec les cellules souches de la peau, mais ça reste encore du domaine de la recherche. Donc ça, c'était juste pour vous signaler qu'il y a quand même des utilisations. Mais tout ce dont je vais vous parler après, ce sont encore des utilisations potentielles, mais ce n'est pas encore aujourd'hui du domaine de la pratique. C'est-à-dire pour souligner aussi, tout le fossé qu'il y a entre la recherche, où on voit les perspectives, on voit plein d'applications possibles, et puis le jour où ça arrive vraiment en pratique, où peut-être que vous serez un jour amené à être traité par ces cellules, mais c'est dans le futur, c'est pas encore une réalité aujourd'hui. Il faut en général, entre une découverte et puis son application en pratique, 10, 20, 30 ans, selon. Donc là, les cellules souches embryonnaires, ça fait déjà une dizaine d'années qu'elles ont été identifiées. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre, au moins en théorie, puisque je vous ai dit, il n'y a pas encore eu d'injection aux êtres humains, des cellules souches embryonnaires. Alors, juste une petite pause. Est-ce que vous avez des questions techniques à me poser? Est-ce qu'il y a des mots que vous n'avez pas compris? Peut-être un concept sur lequel il faut que je revienne? Non? C'est limpide? Bien. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les cellules souches pluripotentes peuvent donner tous les types cellulaires. Je vous en ai mis quelques-uns. Alors, c'est des mots un peu barbares. Myocytes, c'est les cellules musculaires. Le neurone, vous connaissez peut-être, dans le cerveau. Les kératinocytes sont les cellules de la peau. Les cellules bêta, c'est les cellules bêta de l'enguerrance, sont celles qui fabriquent l'insuline dans le pancréas. Les hépatocytes, c'est les cellules du foie. Cardiomyocytes, c'est les cellules musculaires du cœur. La glie, c'est les cellules, disons, nourricières du cerveau. Et puis les cellules sanguines. Et vu que les cellules souches pluripotentes peuvent en théorie générer tout ça, et puis ça a été démontré hein, en laboratoire, même nous dans notre laboratoire, on a des cellules souches pluripotentes en culture, et on est capable de fabriquer par exemple du cœur. Pas un cœur, hein, des cellules du cœur. Et donc en théorie, on peut imaginer que ces cellules pluripotentes, différenciées en cellules cardiomyocytaires, donc cellules du cœur, peuvent soigner un infarctus. Ou ici, on peut soigner des myopathies. Vous savez, ces maladies du muscle, les myopathes qui sont en chaise roulante, qu'on voit aussi, hélas, au niveau du téléthon. On peut imaginer de venir les soigner avec des cellules pluripotentes qui auraient été différenciées en cellules musculaires, etc., etc. Donc, par exemple, les neurones pourraient servir à soigner la maladie de Parkinson ou bien la maladie d'Alzheimer. Donc, on voit que les applications, elles sont très nombreuses. Alors, d'où viennent les cellules souches? Les premières cellules souches pluripotentes qui ont été identifiées, ce sont les cellules souches embryonnaires. Alors, d'où est-ce qu'elles viennent? Alors, pour vous expliquer d'où viennent les cellules souches embryonnaires, il faut que je vous explique d'où nous venons tous, c'est-à-dire la première semaine de développement embryonnaire. Donc, au départ, il y avait un ovocyte, parmi les plus grosses cellules de l'organisme, hein, c'est 150 microns. 150 microns, c'est un peu plus d'un dixième de millimètre. Vous prenez un millimètre, vous le coupez en 10. Et ça fait 1,5 de ces fractions-là. 150 microns, c'est 0,15 mm. Et puis les spermatozoïdes. Après la fécondation, vous avez l'œuf fécondé, le zygote. Alors ici, vous voyez qu'il y a deux noyaux, parce qu'il y a le noyau maternel et le noyau paternel. Donc là, on est quelques minutes après la fécondation. Et à ce moment-là, les deux noyaux, les deux patrimoines génétiques vont se fusionner, et ça va faire votre patrimoine génétique, c'est-à-dire un mélange d'une partie du patrimoine génétique de la mère et d'une partie du patrimoine génétique du père. Donc on appelle ça zygote, mais en fait c'est l'œuf fécondé. C'est l'embryon à une cellule. On est tous passés par ce stade-là. Donc encore une fois, 150 microns. Et pendant la première semaine de développement, tout va rester... Vous voyez ici qu'il y a une membrane un peu épaisse. C'est la zone pellucide, c'est une membrane, une coque, une sorte de... la coquille d'œuf, si vous voulez. Sauf que c'est de la protéine, c'est pas du calcium. Et pendant une semaine, tout va se passer à l'intérieur de cette coque. C'est-à-dire que l'embryon va se diviser, vous allez voir, mais ne sortira de cette coque qu'au bout d'une semaine. C'est-à-dire qu'il ne va pas grossir pendant à peu près une semaine. Donc ça, c'est... Vous voyez qu'il est toujours dans la coque, là, la zone pellucide. Ça, c'est l'embryon à deux cellules, juste après la première division. Et c'est à ce stade-là où chaque cellule est encore totipotente. C'est-à-dire que si jamais vous les séparez, vous aurez deux jumeaux vrais. Ça, c'est un peu plus tard, 3-4 divisions cellulaires plus tard, le stade de morula, petite mûre. Vous avez une dizaine de cellules, et ça continue. Et à 5-6 jours, vous arrivez au stade de blastocyste. Le blastocyste, il faut vous imaginer un ballon de football, sauf qu'il est tout petit, parce que c'est ce que vous voyez sur la photo là, il fait 150 microns de diamètre. Mais par contre, l'image du ballon de football est tout à fait cohérente, c'est rond, et c'est des cellules que vous voyez là, plates, hexagonales, et à l'intérieur, c'est creux. Ici, on coupe, il y a une cavité liquidienne, et accroché à l'intérieur de la cavité liquidienne, vous avez un petit tas de cellules, quelques dizaines de cellules, qu'on appelle la masse cellulaire interne, une petite masse de cellules, quelques dizaines de cellules, une centaine maximum. Eh bien, c'est cette masse cellulaire interne qui va devenir l'embryon et après le fœtus, puis le bébé à la naissance, et donc vous. Et le reste, là, le ballon de football, la sphère, elle, ce sera juste le placenta. Juste, ça va servir pour soutenir le bébé pendant son développement. Mais le bébé lui-même, c'est cette petite masse cellulaire interne, d'accord ? Donc ces quelques dizaines de cellules vont devenir un être humain complet. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que là, vous avez des cellules qui se ressemblent toutes, mais elles sont capables de donner un être humain complet, c'est-à-dire à la fois du foie, de la peau, du cerveau, etc. Et donc ces cellules-là sont par définition pluripotentes, elles sont capables de tout faire. Donc là, c'est intéressant, on a les cellules pluripotentes, mais est-ce qu'on est capable de les... C'est quelque chose d'éphémère, parce que... Je ne sais pas si c'est la diapo suivante. Ça va très vite se différencier, ça va très vite devenir un fœtus. Donc, in vivo, c'est quelque chose de très éphémère, ces cellules pluripotentes. Alors, juste pour reprendre ce que je viens de vous dire, mais d'un point de vue géographique, où ça se passe tout ça, on a tendance à l'oublier, mais la fécondation n'a pas lieu dans la cavité utérine. Ici, vous avez l'utérus, là, vous avez le vagin, le col de l'utérus. Ici, vous avez les trompes, et là, vous avez l'ovaire. Eh bien, la fécondation a lieu tout en haut des trompes, c'est-à-dire très près de l'ovaire, juste après l'ovulation. Et d'ailleurs, et pendant la première semaine, vous avez l'embryon qui va migrer dans les trompes, enfin dans la trompe, parce qu'en général, il n'y en a qu'un événement de fécondation. Si jamais d'ailleurs la migration se passe mal, ça fait une grossesse extra-utérine. La grossesse se fait dans le tube, et ça, c'est quelque chose de très dangereux, parce que ça finit par exploser et provoquer des saignements. Mais si tout se passe bien, au bout d'une semaine, vous avez l'embryon, en même temps qu'il commençait à se diviser, qui arrive au stade de blastocyste, que vous reconnaissez le blastocyste ici, qui arrive dans la cavité utérine. Donc voilà ce qui se passe d'un point de vue, disons, géographique, localisation, pendant cette première semaine de développement embryonnaire. Et après, je suis plus sûr, non, je ne l'ai pas mis, mais après, vous avez le blastocyste qui va venir se nidifier, c'est-à-dire qui va rentrer dans la muqueuse utérine, où là, il va commencer à établir des connexions avec la muqueuse de la mère, donc la circulation artérielle de la mère, qui va venir le nourrir et permettre le développement du placenta, et donc vraiment nourrir cet embryon. Parce que là, pendant la première semaine, l'embryon s'est uniquement nourri sur ses propres réserves, comme d'ailleurs un vrai œuf, un œuf de poule. Hein. Pendant une semaine, il vit sur ses propres réserves. Une autre façon de représenter le développement embryonnaire précoce, c'est avec un décimètre. Ici, vous avez 10 cm. Au moment de la fécondation, pendant la première semaine, ce n'est pas représenté sur cette diapo parce que c'est tellement petit, un dixième de millimètre, que face à un décimètre, on ne peut pas le voir. À 14 jours, vous pouvez commencer à deviner ce petit point. Donc, on s'approche du millimètre. À 6 jours, pardon, il y a une animation. À 28 jours, vous êtes à peu près à un demi-centimètre. Et voilà, si on regarde avec une photo, à quoi ressemble un embryon à 28 jours. Donc là, on est bien à 3 semaines après le stade de blastocyste. Vous voyez qu'en à peine 3 semaines, on est passé d'un petit tas de cellules qui s'appelait la masse cellulaire interne à quelque chose qui ressemble parfaitement à un petit être humain. Vous voyez l'ébauche de la tête, l'ébauche des yeux, l'ébauche des bras et des mains, l'ébauche des oreilles même. Donc vous voyez qu'en 3 semaines, on a complètement perdu l'aspect tas de cellules de la masse cellulaire interne et qu'on est passé à un petit être humain, certes tout petit, mais quand même déjà, ça a complètement différencié. On n'est plus sur le petit tas informe de cellules souches pluripotentes. Donc vous voyez un demi-centimètre. Puis ça continue, ça c'est à 35 jours. À 10 semaines, vous voyez déjà qu'il fait plusieurs centimètres l'embryon. Il sera bientôt appelé fœtus. Et vous voyez ici les pieds d'un embryon. Par rapport à des doigts, vous voyez que c'est tout petit et en même temps c'est déjà, ça ressemble déjà terriblement à un être humain adulte. Alors pourquoi est-ce que je vous donne aussi cette diapo, non seulement pour vous expliquer un petit peu d'où on vient, mais également pour vous dire la recherche aujourd'hui en France sur les embryons n'est permise que de fait, même si ce n'est pas écrit dans les textes, mais de fait n'est permise que pendant la première semaine du développement embryonnaire. C'est permis uniquement à ce stade-là. Et que personnellement, je fais de la recherche sur l'embryon, on y reviendra là-dessus. Ça ne me choque pas du tout, dans les conditions en plus qui sont décrites par la loi. On reviendra sur quels embryons. Mais ce n'est pas du tout la même chose que de faire la recherche sur l'embryon à 5 semaines, 10 semaines. Vous voyez qu'il y a une différence radicale entre le blastocyste, où c'est un tas de cellules, et ici, vous avez déjà un embryon où il y a l'ébauche de même le système nerveux central. Alors, c'est une vaste question de savoir si à 10 semaines, un embryon a... une conscience, je ne pense pas, mais enfin, qui pourra répondre à ça? Est-ce qu'il souffre ou pas? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas de recherche sur embryon vivant à ce stade-là. C'est uniquement ici en haut qu'il y a une recherche sur l'embryon. Il faut bien faire la différence. Alors, les cellules souches embryonnaires. Donc, je vous ai dit que ici, à ce stade-là, la masse cellulaire interne, que vous voyez ici, vous avez des cellules qui sont pluripotentes et que 3 semaines plus tard, elles se sont toutes différenciées en cellules qui forment les bauches du cerveau, les bauches des membres, les bauches des muscles, du cœur, etc. Donc, la capacité de pluripotence, celle de former tous les tissus, s'est évanouie pendant ces 3 semaines. La question qui était posée depuis les années 60, c'est est-ce que ce stade-là, puisqu'on a fait cette recherche aussi beaucoup chez la souris, est-ce qu'on peut, ces cellules pluripotentes, les maintenir artificiellement in vitro? In vitro, c'est-à-dire dans des boîtes de pétri, des boîtes de plastique, dans un laboratoire. Est-ce que cette propriété-là, elle est vouée à disparaître comme in vivo, ou est-ce qu'on peut les maintenir in vitro? La réponse a été apportée en 81 pour la souris et en 98 pour l'homme, qu'on peut maintenir ces cellules souches à l'état de pluripotence, in vitro. Il fallait trouver la technique, elle a été découverte donc par Evans et Kaufmann en 81 et par Thompson, que vous voyez ici sur la photo, en 98. Et donc, ils ont mis au point des techniques, donc je ne vais pas passer sur le détail, mais comment cultiver ces cellules souches pluripotentes in vitro, en laboratoire, sans qu'elles perdent cette propriété de faire tous les tissus, c'est-à-dire pour qu'elles restent pluripotentes. Si jamais une cellule devient du neurone, par exemple, elle ne peut plus fabriquer du cœur, c'est fini. Elle s'est différenciée, elle ne peut plus fabriquer les autres tissus. Il faut qu'elle reste au stade immature de pluripotence. Donc ça fait maintenant donc 12 ans chez l'homme, et un peu plus de 30 ans, bientôt 30 ans chez la souris. Une fois qu'on a dérivé les cellules souches embryonnaires pluripotentes, on peut à tout moment changer les conditions de culture et les pousser vers une différenciation ou vers des cellules du sang, ou vers du foie, du neurone ou du muscle. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Ça, c'est juste pour vous illustrer ce qu'on a fait dans le laboratoire, donc en suivant la recette de M. Thompson. Ici, vous avez un blastocyste, il est un peu moins rond que sur la photo, il est un peu plus rugby que foot. Mais vous voyez ici, c'est plus dense, c'est la masse cellulaire interne. Nous avons disséqué cet embryon qui a été donné à la recherche. Et je reviendrai sur comment on peut donner des embryons à la recherche. Vous avez ici la masse cellulaire interne qui a été mise en culture sur un tapis de fibroblastes, ce sont des cellules qui adhèrent. Et ici, vous voyez, ça a collé. Donc faites attention, les agrandissements ne sont pas les mêmes. Là, c'est au microscope, x20, ici c'est x10. Donc vous allez suivre l'embryon, là c'est au troisième jour, entre cette diapo-là, celle-ci et celle-ci, c'est les mêmes agrandissements x10, et vous voyez que ça grandit, vous voyez, là il a collé, là ça commence à pousser, et ici ça a fortement poussé, parce que ça prolifère terriblement. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un embryon, au premier stade de la vie, c'est tout petit, je vous l'ai dit, un dixième de millimètre, et ça va devoir devenir un bébé de 3 kg en moyenne à la naissance, voire plus, et donc il va y avoir une prolifération considérable pendant les premiers mois de la vie d'un être humain. Et donc ces cellules, au départ, prolifèrent terriblement. C'est à la fois un avantage, on peut en théorie fabriquer beaucoup de cellules, c'est aussi un inconvénient. C'est quoi l'inconvénient? Si on injecte ces cellules qui prolifèrent beaucoup, ça va former une tumeur. Pas forcément un cancer, mais au moins une tumeur, c'est une prolifération incontrôlée là où on va l'injecter. Donc il va falloir faire attention le jour où on va utiliser ces cellules en thérapeutique, parce que comme elles prolifèrent énormément, elles posent un danger de prolifération. Au bout d'une dizaine de jours, là, à 9 jours, on a découpé ce qui a proliféré et on l'a remis en culture. Ça s'appelle un passage. Donc on l'a remis sur des nouvelles cellules fibroblastiques. Donc on a continué comme ça la culture. Et actuellement, on est déjà à plus de 2 ans de cette culture. On a obtenu beaucoup de cellules, certaines qui sont restées en laboratoire et d'autres qui ont été congelées dans de l'azote liquide. C'est-à-dire à moins 196 degrés. Donc on a dérivé un certain nombre de lignées. Je vais passer. Et alors, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer sur quels embryons on a le droit de faire de la recherche. Parce qu'en fait, aujourd'hui, pendant longtemps, ça a été interdit en France. Je reviendrai là-dessus. Aujourd'hui, c'est autorisé. Alors, c'est très hypocrite. En fait, la recherche sur l'embryon est interdite, mais elle est autorisée. C'est les textes exacts de la loi. Et on ne peut faire de la recherche sur l'embryon que si c'est des embryons qui ont été obtenus pour la fécondation in vitro. Vous savez ce que c'est la fécondation in vitro, hein? Quand pour traiter des patientes, des couples qui ont des problèmes de stérilité, on fait la fécondation en tube à essai dans le laboratoire et qu'on fait développer l'embryon environ 3 à 5 jours avant de le réimplanter dans l'utérus de la femme, du couple, pour avoir un bébé. Donc ça veut dire qu'on ne peut faire la recherche sur l'embryon que dans le cas de la FIV. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire d'embryon pour la recherche. On ne peut pas s'amuser à faire la fécondation sur la paillasse d'un laboratoire pour créer des embryons pour faire la recherche dessus. Ce seront uniquement ceux qui ont été obtenus dans le cadre de la FIV, après l'accord des parents, et s'il n'y a plus de projet parental. Et ça, c'est un point très important de la loi. Ça veut dire que c'est d'abord la priorité est donnée à la fécondation in vitro. Et puis, pour certaines raisons, il peut ne plus y avoir de projet parental. Et à ce moment-là, les embryons sont soit jetés, soit donnés à un autre couple. On peut faire don de son embryon à un autre couple si on en a trop. Mais ce n'est pas toujours facile. Il n'y a pas beaucoup de parents qui acceptent de donner leur embryon parce que c'est comme presque donner un enfant. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais en même temps, dans les faits, il y a peu de couples qui acceptent de donner leur embryon. Soit on peut le donner à la recherche. Quels sont les embryons qui n'ont plus de projet parental? C'est évidemment si les parents se sont séparés, ou bien s'il y a un des deux parents qui est décédé, ou bien les parents ont eu suffisamment d'enfants. Ils ont eu deux enfants, par exemple par la FIV, ils n'en veulent pas plus. À ce moment-là, il y a des embryons qui ont été, par exemple, congelés, parce que les embryons en excès sont congelés, leurs embryons seront détruits, ou bien donnés à la recherche, ou bien, encore une fois, donnés à un autre couple. Vous avez d'autres cas de figure qui sont dans le cadre du diagnostic préimplantatoire. Je ne sais pas si M. Fontes vous a parlé du diagnostic préimplantatoire. Je n'ai pas compris votre réponse. Alors, je reprends. Le diagnostic préimplantatoire, c'est... on peut, pour certaines maladies génétiques très graves, on fait toujours un diagnostic prénatal, c'est-à-dire avant la naissance. C'est-à-dire, par exemple, si dans une famille, vous avez la mucoviscidose, vous avez déjà un enfant qui est né avec la mucoviscidose, donc problème de poumon, on peut essayer de faire le diagnostic pour les enfants qui viennent après, dans le ventre de la mère, c'est-à-dire prénatal, avant la naissance, en faisant une biopsie justement du placenta, en faisant une analyse génétique. Si jamais l'enfant est porteur de la maladie, on provoque un avortement thérapeutique. Mais c'est très douloureux pour la mère, d'un point de vue surtout psychologique, de faire un avortement thérapeutique, c'est une très grande déception. Et donc, il y a maintenant une autre technique, lorsqu'on sait que dans la famille, il y a une maladie génétique grave, c'est de faire de la fécondation in vitro chez ce couple-là, de faire le diagnostic génétique sur chaque embryon. C'est-à-dire sur l'embryon stade à peu près 8 cellules, on pique une cellule et on va faire un test génétique dessus pour voir si l'embryon est atteint ou pas de la maladie qu'il y a dans la famille, mucoviscidose par exemple, et on ne réimplante que des embryons qui sont diagnostiqués comme normaux. Et donc vous avez sur les bras des embryons atteints par exemple de la mucoviscidose ou d'autres pathologies, et ceux-là sont voués à être détruits puisqu'ils sont malades, porteurs de la maladie. Eh bien, dans le cadre de la loi qui a été révisée en 2004, on peut maintenant donner ces embryons plutôt que de les jeter à la recherche. Et donc, par exemple, c'est là où je reviens sur ma diapo d'avant, nous avons une lignée qui est normale, issue d'un embryon normal, mais vous avez deux lignées qui sont porteurs de maladies génétiques, un porteur de la mucoviscidose et l'autre porteur d'une maladie qui s'appelle la VHL, von Hippel-Lindau, et qui est aussi une maladie génétique grave. Et puis, vous avez aussi le cas de figure d'embryons qui sont de qualité vraiment trop médiocre, à la fois pour être réimplantés, parce qu'en général, quand on fait de la fécondation in vitro, on fait une série d'embryons, une dizaine en général, et donc on va choisir les plus jolis, et éventuellement ceux qui sont jolis et en excès, on peut les congeler, mais des embryons qui ont vraiment un aspect morphologique, c'est-à-dire au microscope un aspect pas satisfaisant, eh bien on va les détruire, et donc au lieu de les détruire, on peut aussi les donner à la recherche. Donc la loi avance, 2004 c'était strictement interdit, et donc par exemple, je vous ai dit que les cellules souches embryonnaires ont été découvertes par Thomson, c'est un Américain, en 1998. Ça ne pouvait absolument pas être en France, puisque c'était une recherche totalement interdite en France. Et ça, c'est un des sujets qu'on peut éventuellement aborder tout à l'heure. Donc en 2004, la loi a été modifiée pour autoriser cette recherche. Mais même après modification de la loi est telle qu'elle apparaît sur l'écran. La recherche sur l'embryon humain est interdite. C'est comme ça qu'elle commence. Et après, vous avez par dérogation au premier alinéa, c'est-à-dire par dérogation à cette première phrase qui est interdit à la recherche sur l'embryon, la recherche est autorisée pour une période limitée à 5 ans. Et ça, c'est autorisé par l'Agence de la biomédecine. Et uniquement, mais ça, je vais pas reprendre, uniquement sur les embryons obtenus dans le cadre de la fécondation in vitro, et c'est encadré par l'Agence de la biomédecine, qui est une nouvelle agence qui encadre toutes les activités de recherche sur l'embryon, mais également de fécondation in vitro et de greffe. Donc nous, dans l'équipe, on fait de la recherche sur les cellules souches embryonnaires et puis maintenant sur les cellules reprogrammées. Donc ça, c'est les papiers que nous avons publiés. Donc on publie dans des papiers internationaux. C'est comme ça qu'on fait la recherche aujourd'hui, même en France. On est obligé d'écrire en anglais pour que n'importe qui dans le monde puisse vous comprendre. Donc tous les papiers qu'on écrit sont écrits en anglais dans des revues internationales anglaises. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives aux cellules souches embryonnaires? Il y a une grande polémique aujourd'hui en France et dans le monde qui continue. Hein, avec la polémique dans le monde, c'est qu'il y a des pays qui autorisent la recherche en embryon, d'autres qui l'interdisent. Par exemple, en Pologne, c'est strictement interdit. Et même en Italie, c'est quasiment interdit. Il y a des pays qui sont très laxistes, Suède, États-Unis et d'autres. Enfin, États-Unis, ça a été fluctuant. Et puis des pays intermédiaires comme la France. Donc, il y a des gens contre la recherche en embryon. Et qui disent qu'il y a des alternatives aux cellules souches embryonnaires. Alors, lesquelles? À un moment donné, c'est il y a une dizaine d'années, il y avait des papiers. Donc là, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez comprendre l'anglais de ces titres. Turning brain into blood, transformer le cerveau en sang. Et vous avez eu un an plus tard un papier qui s'appelait transformer le sang dans du cerveau. Parce que vous aviez des papiers qui disaient à peu près ceci. Dans la moelle osseuse, c'est là où vous avez les cellules souches hématopoïétiques, celles qui font du sang, vous pouvez transformer ces cellules souches hématopoïétiques en cerveau, en muscle, en foie, etc. Et vous pouvez trouver aussi des cellules souches dans le cerveau qui peuvent donner non seulement du cerveau, mais également du sang, du muscle, etc. C'est-à-dire qu'il y avait des papiers qui disaient qu'avec des cellules souches qu'on peut trouver chez l'adulte, on pouvait régénérer n'importe quel organe. En pratique, ça a été difficile de reproduire ces résultats. Il y a aussi eu des papiers qui ont montré que ces expériences avaient des biais, en particulier que ça créait des fusions cellulaires. Est-ce que vous savez combien on a de chromosomes dans nos cellules? 23 paires, hein, paires. Donc 46 chromosomes. Et vous voyez sur cette photo, vous pouvez compter, il y en a le double, donc ça doit être 92, parce que c'est issu d'une fusion entre deux types cellulaires. C'est une expérience où les gens avaient pensé avoir transformé des cellules du sang, cellules hématopoïétiques, en cellules du foie. Et en fait, il s'est révélé que c'était la fusion de ces deux types cellulaires qui a formé une sorte de cellule qui était à la fois du sang et du foie. Et lorsqu'on regarde ces chromosomes, il y a effectivement 4 paires de 23, enfin 23 quadruplés de chromosomes. Et donc, on ne peut pas dire que c'est une cellule qui s'est transformée en une autre. C'est des eux qui sont fusionnés, qui ont créé un nouveau genre cellulaire dont on ne peut que se méfier pour un usage thérapeutique. Donc ça, c'était une piste quand même qui paraît difficile à utiliser, en tout cas pour le moment peu reproductible et pas qu'on peut difficilement mettre en pratique. C'est-à-dire que les cellules souches hématopoïétiques, par exemple celles qu'on trouve dans le sang de cordon, sont très bonnes pour régénérer une moelle osseuse, régénérer une hématopoïèse, par exemple pour traitement de certains cancers, mais n'est pas du tout envisageable, pour le moment en tout cas des connaissances, pour réparer le cerveau, réparer le foie ou le muscle. Par contre, une autre piste beaucoup plus intéressante, c'est la reprogrammation. La création de cellules qu'on appelle IPS. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Alors, IPS, c'est les acronymes de Induced Pluripotent Stem Cells. Est-ce que vous connaissez la pierre philosophale? La pierre philosophale, c'était les alchimistes au Moyen-Âge qui essayaient de transformer du plomb en or grâce à la pierre philosophale. Eh bien, un chercheur japonais, Shinya Yamanaka, a trouvé à peu près l'équivalent, mais pour les cellules humaines. Aujourd'hui, par la reprogrammation, c'est-à-dire en modifiant des cellules génétiquement, on peut transformer les cellules, par exemple, cutanées, de la peau, en IPS, c'est-à-dire ce sont des cellules pluripotentes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des cellules souches embryonnaires, sauf qu'elles ne sont pas issues d'un embryon, elles sont issues de la peau, par exemple, d'un être humain adulte. Et une fois que vous avez eu des IPS, ils ont démontré qu'on peut effectivement obtenir des cellules cardiaques, ou bien, je n'ai pas mis toutes les possibilités, des cellules des neurones, des cellules du cerveau, ou des hépatocytes, etc. Et donc, on peut imaginer, avec ces cellules, de réparer un cœur, par exemple. Ces résultats-là sont parfaitement reproductibles. Je vous ai dit, les papiers d'avant, ça a été très difficile à reproduire. Certains ont reproduit ces résultats, mais beaucoup pas. C'est très critiqué. Beaucoup de gens n'y croient pas. Alors que ceci est parfaitement reproductible. Et donc, par exemple, nous, dans le laboratoire, on a reproduit également ces résultats. Donc, aujourd'hui, on peut imaginer, on peut transformer de la peau en cœur. Cellules cardiaques. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable aujourd'hui, in vitro. Et ça, c'est une révolution qui date de 2006. Le premier papier a été publié dans la revue Cell, une des revues les plus prestigieuses en biologie, en 2006. Donc depuis 2006, on peut faire, y compris chez l'homme, transformer un tissu en un autre. Et ça, vous comprenez tout de suite que ça ouvre plein de perspectives. Et en particulier, ça ouvre des perspectives chez quelqu'un qui est assez âgé, qui n'a plus de cellules jeunes, de prendre sa peau, et de la reprogrammer pour qu'elle devienne embryonnaire, c'est-à-dire revenir à la stade le plus précoce, et à partir de là, faire du cœur jeune ou bien de la peau jeune en fonction des besoins de cette personne. Donc vous voyez toutes les perspectives théoriques que ça ouvre. Alors ces résultats sont très récents, 2006, ça a moins de 4 ans, mais en même temps, donc il faudra encore des années avant que ça arrive en pratique. Mais c'est quelque chose de reproductible et donc qui vraiment laisse augurer que pour vous, quand vous serez âgé, c'est pas encore tout de suite, ou pour vos enfants, seront des choses qui seront peut-être utilisées en pratique médicale. On est près de la fin du diaporama. Je voulais juste vous récapituler en particulier les IPS et peut-être repositionner le clonage là-dedans. Donc, je vous ai montré qu'au départ, vous avez l'ovule et le spermatozoïde. Pendant les deux premières divisions cellulaires, on a des cellules souches. Enfin, c'est même pas des cellules souches, hein, on peut discuter ça. C'est des cellules totipotentes. Puis, on est au stade embryonnaire, c'est des cellules pluripotentes. Et puis, chez l'adulte, on trouve des cellules souches multipotentes, donc qui ont un pouvoir de différenciation plus restreint, mais qui sont vraiment intéressantes. Et puis, bien sûr, chez l'adulte, on va boucler la boucle, puisqu'on fabrique chez les femmes des ovocytes, chez les hommes des spermatozoïdes, qui sont les seules cellules capables de refaire normalement, à part leur programmation, de faire des cellules embryonnaires. C'est-à-dire d'un sujet adulte, on peut repartir au stade embryonnaire, évidemment grâce à la fécondation. Oups. Eh bien, la reprogrammation permet à partir d'une personne adulte de repartir au stade embryonnaire. Et le clonage, je n'ai pas une diapo exprès pour ça, mais je sais, le clonage, c'était prendre, partir d'une cellule adulte, donc de nouveau ici, vous voyez la flèche bleue, prendre une cellule adulte, la fusionner avec un ovule dont on a enlevé le noyau. Et pourquoi un ovule? Parce que l'ovule, finalement, c'est la seule cellule capable de reprogrammer une cellule adulte en cellule embryonnaire. L'embryon est issu de l'ovule, avec le spermatozoïde, mais le spermatozoïde, finalement, il n'apporte que du matériel génétique. Il n'apporte quasiment pas de cytoplasme, c'est-à-dire de contenu cellulaire, à part le noyau. Il n'apporte que du matériel génétique. C'est l'ovocyte qui est vraiment la cellule qui va fabriquer l'embryon. Et donc, en fusionnant une cellule adulte, ça avait été d'abord démontré chez le mouton, hein, avec Dolly, en fusionnant une cellule adulte avec un ovule, dont on a enlevé le noyau, eh bien, la cellule adulte est redevenue totalement embryonnaire. Et c'est comme ça qu'on a pu obtenir Dolly, puisque d'un mouton adulte, on a obtenu un embryon qui était Dolly, qu'on a replacé dans un mouton porteur, pas une mère porteuse, mais une brebis porteuse, et donc qui a mis à bas Dolly, qui était un clone à l'identique du mouton qui avait donné cette cellule. Donc la reprogrammation ne va pas jusqu'au bout, et d'ailleurs enlève du coup tout le problème éthique qui était lié au clonage, puisque qui disait clonage disait création d'un embryon. Donc ça ouvrait la porte vers le clonage reproductif, c'est-à-dire faire des vrais clones, des bébés qui soient identiques, avec des questions éthiques, mais également des questions éthiques, parce que les clones, Dolly était en bonne santé, mais la plupart des clones qui sont faits dans le cadre des, enfin, chez les animaux, les moutons, mais également les vaches, etc., sont en mauvaise santé. Le clonage est quelque chose qui fonctionne très mal. Donc ça posait beaucoup de problèmes, le clonage. Mais avec les IPS, on peut maintenant obtenir des cellules embryonnaires sans passer par le stade embryonnaire. Et ça enlève beaucoup de questions éthiques à tout le problème de la médecine régénératrice avec des cellules pluripotentes. Donc, pour conclure, les cellules souches, en particulier les cellules souches embryonnaires humaines, sont un gros enjeu pour la médecine régénérative. J'espère vous avoir convaincu de ça. Mais également, ça permet de comprendre le développement embryonnaire précoce, puisqu'on a accès directement à des cellules du stade embryonnaire. Ça permet de mieux comprendre la fécondation in vitro, comment se développe l'embryon. Et moi, je milite quand même pour autoriser la recherche sur l'embryon. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui dans un régime d'interdiction, puisque aujourd'hui, c'est assez hypocrite. On a le droit de fabriquer des embryons pour la fécondation in vitro, et je crois que personne aujourd'hui en France ne remet ce droit-là en question. C'est critiqué par certains, en particulier l'Église catholique, mais d'une manière générale, la société ne remet pas en question le droit à la fécondation in vitro, qui forcément génère plus d'embryons que ce qui sont utilisés. Par contre, comme on génère plus d'embryons que ce qu'on utilise, on est obligé de jeter des embryons. Donc ils sont détruits. Et donc aujourd'hui, on a le droit de détruire ces embryons, mais heureusement qu'il y a une dérogation, mais sinon on n'a pas le droit de faire la recherche dessus. Ça, c'est vraiment très hypocrite, parce qu'on comprend mal qu'on ait le droit de les jeter, mais pas de faire de la recherche lorsqu'on les détruit. Et puis l'autre message que j'aimerais bien que vous reteniez, c'est il ne faut pas aujourd'hui... Je pense que toutes les... cellules souches sont intéressantes à étudier. On ne sait pas aujourd'hui quelles seront les bonnes cellules souches pour faire la médecine régénérative demain. Est-ce que ce seront les cellules souches embryonnaires, les cellules reprogrammées, les types IPS, ou les cellules souches adultes? Je crois qu'il faut faire de la recherche absolument sur toutes les cellules souches. Et donc, ne pas interdire la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Ça, c'était mon petit mot particulier. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je crois qu'on va pouvoir laisser la place aux questions. Et j'espère qu'on peut discuter de tous ces sujets-là.